Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Franck Kadze.
Nous revoici ensemble sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. C'est le moment du journal de ce samedi 28 septembre 2024. Tout de suite les titres. Il a vendu un simple régime de bananes et il l'a payé de sa vie. Il s'agit d'un homme de la colline Gahissé, en commune Butaganzwa de la province Kayanza. Il a été tué par sa femme pour avoir effectué la petite transaction sans l'en avoir informé. Libérée Emilienne Sibomana, c'est un appel de Lali Nivizi, ancienne responsable syndicale du secteur de l'éducation, qui appelle à la libération de l'ex-secrétaire du lycée Christora de Mouchacha à Gitega, 3 mois, jour pour jour, après son acquittement. Le virus de Marbourg, c'est le nom d'un nouveau virus qui fait déjà des victimes au Rwanda. C'est de cette maladie que va nous parler le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Une femme du nom de Béatrice Yamoulimié de la colline Gahissé, en commune Butaganzwa de la province Kayanza, accusée d'avoir assassiné son mari, est en garde à vue au cachot de la police judiciaire depuis mercredi. Ce drame s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi sur cette colline Gahissé. Un assassinat qui, selon des voisins, serait consécutif à une mauvaise cohabitation qui régnait chez ce couple depuis une longue période. Le point avec Jean-Baptiste Bilera.
Selon des informations en provenance de la commune Butaganzwa, un climat malsain règne depuis plusieurs jours entre Vincent Dilamuba et sa femme Béatrice Yamoulimié. Ainsi, mardi de cette semaine, poursuivent les mêmes informations. Le mari a vendu un régime de bananes récoltées dans la propriété familiale. Quand sa femme en a été informée vers le soir, elle a de mèche administré avec ses enfants à son mari des coups de pilon au niveau de la tête jusqu'à la perte de connaissance. Les mêmes sources précisent que les voisins sont arrivés au domicile de Vincent Dilamuba et ont vite conduit ce dernier aux différentes structures de soins de la localité, mais aucune d'elles n'a pu l'accepter par le fait qu'il était dans un état très critique. Il sera plus tard évacué vers un des hôpitaux de la mairie de Bujumbura, où il est malheureusement décédé. À cet effet, des associations des défenseurs des droits humains en province de Kayanza disent déplorer les effets parfois mortels occasionnés par les violences domestiques et invitent la justice à toujours réprimer pareils actes criminels conformément à la loi. Quant aux services administratifs en cette commune de Butaganzwa, ils demandent au couple de saisir les instances habilitées chaque fois que la cohabitation se révèle déjà mauvaise.
Nous sommes le 28 septembre, cela fait exactement 3 mois qu'Emilienne Sibomana a été acquittée. Elle a en effet été blanchie par le tribunal de grande instance de Gitega le 28 juin dernier. Lali Nivizi, ancienne présidente du syndicat des travailleurs de l'éducation STEB, regrette que cette syndicaliste et ancienne secrétaire du lycée Christora de Mouchacha à Gitega ne soit pas encore libérée. Elle demande à la justice burundaise de se ressaisir et libérer Emilienne Sibomana pour qu'elle retrouve sa famille. Suivez.
Malgré les demandes, les insistances, Emilienne Sibomana reste en prison. C'est une injustice, c'est une violation de la loi. La place de Emilienne Sibomana n'est pas en prison. Elle a dénoncé le directeur sur base des faits. Le tribunal n'a pas voulu mener des enquêtes. Mais après la fin des fins, son cas a été jugé non coupable. Elle a été acquittée malheureusement et n'a pas reçu gain de cause. Malgré l'acquittement, il reste en prison. J'interpelle le procureur général près de la cour d'appel de Gitega de libérer Emilienne Sibomana. J'interpelle la ministre de la Justice de faire appliquer la loi. J'interpelle le ministre ayant en charge les droits de l'homme, le ministre ayant en charge l'éducation, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, de faire leur travail. Ils ont l'obligation de faire respecter le système judiciaire. Le ministre de l'éducation a l'obligation de protéger le système éducatif. Le ministre des droits de l'homme a un droit de regard sur les jugements qui se prononcent sur le respect de la loi au niveau de tout le pays. La ministre de la Justice est supposée être le garant avant le président de la République. Elle doit tenir en considération le respect de la loi et donner les ordres qui s'imposent conformément à la loi.
Inzamba.
Suite de cette édition, c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui nous parle de l'apparition du virus Marburg au Rwanda avec des cas signalés dans des hôpitaux. Quels sont les symptômes et les mesures nécessaires pour sa prévention? Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Garungu.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idouya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Le virus de Marburg fait son apparition au Rwanda. C'est une nouvelle menace pour la santé publique qui s'ajoute à d'autres comme la variole du singe. Le ministère rwandais de la santé publique se dit prêt à contenir cette épidémie. Au cours de ce mini-magazine au cœur de la société, de ce samedi 28 septembre 2024, nous allons évoquer les symptômes de cette maladie virale, les mécanismes de prévention, ainsi que les comportements que la population doit adopter pour limiter les risques de propagation. Au cœur de la société, vous est présenté par Pierre Garungu. Bienvenue. Dans une déclaration récente publiée par le ministère rwandais de la Santé publique, il a été confirmé que des cas du virus de Marburg ont été détectés dans différents hôpitaux du pays. Le communiqué précise que des mesures strictes de prévention ont été immédiatement mises en place pour isoler les patients et éviter une transmission plus large. Des équipes médicales sont mobilisées pour identifier les personnes ayant été en contact avec les malades et intensifier la sensibilisation dans les zones touchées. Le ministère a également rappelé que cette maladie ne se transmet pas par voie aérienne, mais principalement par contact direct avec des fluides corporels infectés. Dans l'après-midi de ce samedi, le ministre de la Santé publique, Dr Sabin Nsanzimana, a rassuré que, avec les partenaires du Rwanda, ils sont à l'œuvre pour maîtriser cette épidémie, malgré les dégâts qu'elle a déjà causés, avec 6 décès et 20 cas détectés.
Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virus ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye.
Au Rwanda, s'est manifestée la fièvre hémorragique à virus Marburg. 20 personnes ont été contaminées et 6 autres ont été emportées par cette maladie. La plupart des patients et des personnes décédées étaient parmi les agents de santé, surtout ceux qui travaillaient dans les urgences. Au niveau du ministère de la Santé, d'autres institutions étatiques et des partenaires, nous sommes en train d'identifier les personnes qui ont été en contact avec les patients ou les personnes décédées. La transmission de ce virus se fait à travers des contacts avec du sang, des sécrétions du malade, ou le partage du matériel ou des habits utilisés par le malade. Quand tu attrapes la maladie, la période d'incubation peut varier entre 3 jours et 3 semaines. La maladie à virus Marburg est une maladie grave, souvent mortelle. Nous sommes en train de tout faire pour que les cas suspects soient dépistés à temps et les patients soient suivis pour éviter qu'il y ait des cas graves ou des décès supplémentaires liés à cette maladie. Parmi les symptômes de cette maladie, on peut citer une fièvre élevée, des maux de tête, des vomissements, une diarrhée, etc. Nous faisons un suivi rigoureux pour tous les cas contacts dans un lieu déterminé en présence des médecins prêts à intervenir en cas de besoin. Nous collaborons avec les organisations internationales pour lutter contre ce virus. Nous vous demandons de respecter les mesures de riposte, notamment en évitant de partager le matériel avec les cas suspects, en vous lavant les mains avec l'eau propre et le savon ou avec le désinfectant.
Dans un contexte où les épidémies continuent de mettre à l'épreuve les systèmes de santé, le virus de Marbourg s'ajoute à d'autres crises sanitaires, comme la variole du singe, qui ravage actuellement la région, et ce, après une pandémie de COVID-19 qui a frappé le monde de plein fouet. Les spécialistes de la santé s'inquiètent que si ce virus, connu pour son taux de mortalité élevé, venait à être signalé au Burundi, les répercussions seraient encore plus graves compte tenu des défis économiques majeurs qui secouent actuellement le pays. Les moyens limités pour contenir une telle épidémie et l'absence de ressources suffisantes pour traiter les cas pourraient aggraver une situation économique déjà critique. Et c'est ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Pierre Garungou, autant qu'à toute l'équipe qui a participé à la production en synergie de cette édition du mini-magazine. Et avant de nous quitter, comme tous les samedis, voici la revue de presse hebdomadaire. Elle vous est livrée par Jean-Georges Kubogora.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Commençons cette revue de presse par le journal Iwachu, qui écrit que la commission Vérité et Réconciliation CVR est face à un nouveau défi, qui est celui de gérer les conflits fonciers et d'autres biens spoliés, une mission initialement dévolue à la Commission nationale des autres biens, CNTB. Aujourd'hui, la CVR a pour tâche de connaître les litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés entre eux, les sinistrés à des tiers ou des sinistrés envers les services publics ou privés. Elle a également pour mission le traitement du passé lié aux violations des droits de l'homme et de la réhabilitation des victimes au sens de la justice transitionnelle. Le travail hérité par la CVR s'avère très controversé puisque d'après certaines autorités provinciales, la CNTB a été au centre de nombreuses polémiques. Chargée de résoudre les différents fonciers et d'autres biens mal acquis, cette institution a été accusée par plusieurs groupes d'être partiale et de favoriser les uns au détriment des autres. Elle reconnaît que le Burundi, marqué par des décennies de conflits ethniques, a vu les terres et les biens devenir une source de tensions récurrentes. Pas mal de Burundais ont rejeté la décision de l'ancienne Commission nationale des autres biens, arguant qu'elle contribuait à creuser davantage les divisions sociales et ethniques. C'est dans ce climat de méfiance et d'amertume que la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation, hérite aujourd'hui de cette responsabilité. Pour réussir là où la CNTB a échoué, la CVR devra traiter les affaires en toute impartialité, et ce, sans être influencée par des pressions ethniques ou politiques. Dans le journal SOS Média, nous lisons que 3 juges du tribunal de grande instance de Burundi restent en détention alors qu'ils ont été acquittés par la Cour suprême. Il s'agit de Léonard Nizigimana, Irène Mukeshimana et Antoine Nyenakumana. Ils ont été informés de la décision de la Cour mardi de cette semaine. C'est une décision qui a débouté le ministère public et remis les amendes judiciaires qui avaient été requises à charge du trésor public. La Cour suprême a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Burundi du 22 mars 2024 qui les avait blanchis. Le ministère public poursuivait ces 3 juges pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Leurs collègues n'ont cessé de dénoncer leur emprisonnement, arguant que ces juges ont été victimes d'avoir fait correctement leur travail. Ils exigent leur libération inconditionnelle. Dans le secteur de l'éducation nationale, le journal Iwachu écrit que ce secteur peine à attirer. Dans un éditorial, le journal montre que le Burundi fait face à un sérieux problème d'enseignants, soulignant que le ministère de l'Éducation nationale a reçu l'autorisation d'engager 630 nouveaux enseignants sur les 12 000 demandés au gouvernement, soit 5 par commune. Face à cette pénurie d'enseignants, certaines écoles se débrouillent comme elles peuvent, en professeurs pouvant enseigner des matières dans lesquelles il n'est pas formé, ce qui représente un obstacle majeur à une éducation de qualité, constate le journal Iwachu. Ce journal montre que le plan sectoriel de l'éducation 2022-2030 est impossible sans avoir des enseignants suffisants et qualifiés. Et pour clore cette revue de presse, le journal Burundi Echo écrit que la saison culturelle 2025A est une saison culturelle qui s'annonce difficile. Les premières gouttelettes de pluie annoncent le début d'une saison pluvieuse avec une canicule estivale sans nom. Les prévisions météorologiques projettent une pluviométrie abondante vers la première quinzaine du mois d'octobre sur l'ensemble du territoire national burundais. L'une des principales préoccupations des agriculteurs demeure, c'est la disponibilité des intrants agricoles. La crise des hydrocarbures, surtout la pénurie récurrente du mazout, risque de perturber la chaîne d'approvisionnement en fertilisants. À cela s'ajoute la cherté des semences. Cette situation n'augure rien de bon dans un contexte où l'agriculture reste le moteur de l'économie nationale, dans la mesure où elle contribue pour près de 40% au PIB national. Et c'est par là que s'achève cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Fin de cette édition, merci à la rédaction de l'art de Nzamba, Agathe Katawe, pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Agréable week-end à tous, au revoir et à la prochaine, toujours avec le même plaisir.